Tendances actuelles du catholicisme français, regard historique. Voici la seconde et dernière partie de l'intervention de Guillaume Cuchet, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'histoire des religions. Intervention enregistrée le samedi 24 septembre 2022 à la Maison diocésaine de Bayonne lors de la journée de rentrée de l'antenne de théologie des pays de l'Adour, la TPA. Voici la seconde et dernière partie de l'intervention de Guillaume Cuchet.
Autre contraste, j'ai un peu évoqué tout à l'heure avec la communion solennelle, c'est les contrastes de la pratique par âge. Alors, ça aussi, j'en parle souvent parce que ça me paraît de la pratique par âge. J'évoquais ces diocèses déchristianisés où il y avait beaucoup d'enfants dans les assistances dominicales. Ça tenait au fait qu'il existait et était encore parfaitement en place au début des années 60, une espèce, ce que j'appelle une matrice rituelle, qui catholicisait à jet continu le gros de la société française. Cette matrice rituelle, elle voulait qu'à partir de 7 ans, la pratique soit obligatoire. Avant, on ne pratiquait que les enfants des familles pratiquantes, donc en gros 25%. Et puis, à partir de 7 ans, comme tout le monde voulait la communion dite solennelle depuis l'entre-deux-guerres, à 12 ans, le taux de pratique montait pour culminer en gros à 80%. Mais mes 80, c'est 95 en Vendée et c'est 60 dans le Limousin. En tout cas, là, vous aviez un pic de pratique très spectaculaire, et on avait quasiment tous les enfants de 9 à 12, catéchisme obligatoire, messe obligatoire à l'appui, avec petite carte dûment poinçonnée par monsieur le curé dans la sacristie. Et là, au fond, le clergé voyait passer quasiment toute la génération de 9 à 12. Les enfants venaient souvent sans leurs parents, puisque les parents, ils pratiquaient à 25. Donc à 12 ans, les enfants pratiquaient 80. Donc il y en a beaucoup qui viennent sans leurs parents. Au lendemain de la communion, commençait la grande dégringolade, qui se stabilisait à 25 ans, après le service militaire et le mariage. Et du coup, le clergé savait, voilà, au fond, on avait toute la génération de 9 à 12, qu'il fallait lui injecter une dose de religion suffisante dans la fenêtre de tir étroite dont on disposait, pour qu'il en reste un peu à la sortie. Et ça dégringolait, et à 25, ça se stabilisait, et puis... Comme je dis souvent, à partir de 60 ans, il y a un petit ressaut terminal de courbe. Voilà, l'effet panique final. Et puis, il y a aussi... mais c'est pas, ça fait pas, ça redresse pas votre taux verticalement. Hein. C'est un plus 5% l'effet Pascal. Ouais. Ça, il y a l'effet panique, et puis il y a la différence de longévité homme-femme. Comme les femmes sont plus religieuses que les hommes, elles sont débarrassées de leur mécréant de mari et elles reviennent voir leur copine. Et donc, l'un dans l'autre, vous additionnez les deux, vous avez ce petit redressement. Mais ça va jusqu'à la mort. Ça va jusqu'à la mort, mais une espérance de vie qui, en gros, était à 60 ans dans les années 60, qui aujourd'hui à 80, on a gagné 20 ans depuis. C'est-à-dire qu'on a gagné une vie en plus, comme disait François de Closet, ce qui change tout. Ce n'est pas mon sujet, mais ça change tout, en fait. En tout cas, ça change énormément de choses. Et puis surtout, ça ne se termine pas là, parce que je vous ai dit, le taux de baptême de la génération, mettons 93, mais le taux d'obsèques religieuses au début des années 60, qui était probablement supérieur à ce qu'il était au plus fort de la République anticléricale vers 1900, il avait remonté, était probablement à 85 ou à 90. Autrement dit, vous récupériez quasiment votre taux d'entrée à la sortie, et ça faisait une matrice. Une matrice qui était en place encore au début des années 60 et qui fonctionnait bail que bail. Alors, elle fonctionnait peut-être par inertie, peut-être que justement, en fait, elle n'avait plus d'essence. C'est pas impossible. Mais les historiens, nous, on est toujours très embarrassés quand on passe du quantitatif au qualitatif. Parce que le quantitatif, on peut en parler, le qualitatif, surtout dans ce domaine, c'est Dieu qui nous dira le dernier mot de cette affaire. Le qualitatif, il est toujours présumé. Le quantitatif, il est objectif. Voilà. Donc moi je me méfie toujours, je dis oui bien sûr, on est moins nombreux, mais qu'est-ce qu'on est plus convaincu. Ouais, ça ressemble un peu à une théologie de la misère cette affaire. C'est peut-être vrai, parce qu'il existe le qualitatif, il existe, mais c'est difficile à élaborer, et à mon avis ça ne permet pas de penser les vraies questions. Donc contraste de la pratique par âge, c'est très important. Pourquoi je fais ce schéma? Parce que au fond, ce qui va se passer, la rupture des années 60, c'est quoi? Elle a été portée par une génération en particulier, qui est la génération des baby-boomers. Et parmi les baby-boomers, vous savez, les baby-boomers en France, on dit c'est ceux qui sont nés, en gros, entre 1945 et 1965, sur 20 ans. Mais c'est évidemment pas du tout la même chose d'être né en 45 et d'être né en 60. La vie d'un petit Français né en 44, l'enfance a été spartiate. Hein. L'enfance a été très, très spartiate. Alors, d'un petit Français né en 1960, c'est un tout autre univers. Bon. Donc, quand on raisonne sur les baby-boomers, il faut savoir de qui on parle. Les démographes parlent de cohorte. De quelle cohorte on parle? Parce que leur destin a été très variable. Moi, je crois que la cohorte décisive, au vu de ce qu'on voit dans les statistiques, c'est en gros ceux qui sont nés à partir de 1950 et qui vont faire le chemin rituel, comme les autres. Ils vont le démarrer. Alors, là encore, diversité de milieux sociaux, de régions, hein, dans le calendrier, dans les modalités. Mais globalement, ils vont faire le chemin, simplement ils vont partir de plus bas, ils vont monter moins haut, ils vont descendre plus bas, et sur deux générations, ils vont fusiller la matrice. Ils vont la faire disparaître. Et cette matrice, il n'en reste plus aujourd'hui que les 70% d'obsèques religieuses, toutes religions confondues, car peut-être 60% d'obsèques catholiques. Le dernier indice de masse, c'est celui-là. C'est le dernier indice encore en place. Tous les autres, votre taux de pratique dominicale est à 1,5, le taux de baptême de la génération est à 20 ou 25. C'est-à-dire que tous les autres indices, tous les autres nœuds de la matrice sont sautés, un à un, à mesure que cette génération décisive et les suivantes sont passées dans la matrice en la rasant progressivement. Ils ont arasé tout sauf le dernier élément, c'est-à-dire les obsèques religieuses, parce que, il y a deux explications, soit parce que c'est la mort, et que la mort, d'une certaine façon, c'est, à bien des égards, la cause génératrice de l'ensemble du système, donc c'est aussi la dernière chose qu'on lâche quand on doit en sortir, hein. La religion des morts au XIXe siècle, c'est... La religion des morts est une invention du XIXe siècle. Aller sur ces tombes, poser des fleurs, revenir périodiquement, y présenter les enfants qui vont faire leur communion, qui vont se marier, etc. C'est une invention du... C'est pas sous l'Ancien Régime, on va jamais sur ces tombes. D'abord, il n'y a pas de tombe sous l'Ancien Régime. Il y a un petit cimetière très étroit, avec éventuellement une croix par-ci, par-là. Tous les 5 ans, on reprend les... Il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de cimetière. Le cimetière qu'on a sous les yeux est né à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle. Et c'est dans ce nouvel espace cimitérial qu'est née une nouvelle religion, la religion des morts, qui est un mixte de culte des morts révolutionnaires et de catholicisme. C'est un sujet incroyable. Ouais. C'est la religion qu'on a inventée au XIXe siècle, cette religion des morts. Le clergé l'a très vite compris, les 1820 et 1830. Et c'est adapté pour la recatholiciser, d'une certaine façon, cette religion des morts. Autrement dit, là, les morts, c'est la dernière chose qu'on lâche, et ça explique probablement la résilience de votre taux, mais c'est aussi simplement un effet de génération, c'est que ceux qui meurent aujourd'hui sont nés dans les années 30, 40, ils ont fait le parcours, ils ont été mis sur orbite par le parcours, et ils terminent la matrice. Ah. Donc la vraie question, c'est quand mourront ceux qui sont nés dans les années 50, de savoir ce qui va se passer. Et à ce moment-là, probablement que votre taux ira rejoindre peut-être un niveau au-dessus du fait de ces données anthropologiques, les autres indices. En tout cas, contraste de la pratique par âge, j'y insiste un peu parce qu'à mon avis, c'est par là que ça a craqué. C'est-à-dire que ce système qui était la structure portante d'un catholicisme, mettons, culturel, généralisé, ce système s'est effondré. Et il achève de s'effondrer sous nos yeux. Ça prend du temps, forcément. Ça s'est installé sur des siècles. Ça ne se liquide pas en une génération, mais ça se liquide en deux ou trois générations. Vous le voyez dans les familles, dans les fratries. Sur trois générations, vous pouvez nettoyer du catholicisme votre culture familiale. Donc, c'est beaucoup plus long à installer qu'à désinstaller. Il faut être très conscient de ça, parce que c'est le moyen peut-être de mettre chacun devant ses responsabilités en disant c'est votre problème, c'est le problème de votre famille, de vos familles, c'est pas le problème des curés, laissez donc les curés de côté, c'est le problème de vos familles, c'est la religion de vos grands-mères, de vos arrière-grands-mères, peut-être celle de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants. C'est un problème de responsabilité presque personnelle et familiale et pas une affaire macro ou politique. En tout cas, cette affaire, à mon avis, de contraste de la pratique par âge, permet de comprendre beaucoup de choses de la crise elle-même qui s'est produite derrière. Alors, j'arrête avec les contrastes. Ce qui me paraît important, moi, ce qui m'a le plus surpris, peut-être, dans mes travaux sur le sujet, quand j'ai revisité toutes ces statistiques, ces enquêtes des années 50, les commentaires qu'elles avaient suscités, c'est de m'apercevoir que personne n'a vu venir la crise. Personne n'a vu venir la crise. C'est ça qui est extraordinaire. Il y avait un niveau d'expertise extraordinaire. On s'est regardé dans les moindres détails. Et l'idée, c'était bien d'anticiper ce qui allait se passer. Eh bien, personne n'a vu venir l'effondrement. Personne ne l'a annoncé ni vu venir. On le voit très bien, par exemple, au programme, à la dernière vague de construction d'églises en France. Il y a eu une dernière vague dans les années construites dans les années 50-60. Un vaste programme de construction d'églises, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps, qui était lié au fait qu'on sentait bien qu'on allait assister, qu'on assistait d'ores et déjà à un exode rural très fort, que beaucoup de gens allaient arriver dans les villes et dans les métropoles, et qu'il faudrait qu'il y ait déjà prêt, en quelque sorte, un réseau d'églises pour les accueillir. Et donc, dans les années 50-60, on a lancé des programmes de construction d'églises. Ce sont les premières qu'on vend, d'ailleurs, aujourd'hui, ou qu'on détruit, parce que, esthétiquement, c'est souvent les moins réussies. Et puis, surtout, elles sont à la charge des finances de l'Église, parce qu'elles sont post-1905. Ça, c'est aussi la main gauche du bon Dieu. C'est-à-dire que l'avantage de la séparation, c'est que désormais, ils payent les réparations et les machins. Et que l'Église serait bien en peine de les payer, si elle avait à les payer. Donc, la séparation, très mauvaise affaire financière à court terme, mais très bonne à long terme. Ça, c'est l'ironie de l'histoire. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que cette dernière génération d'églises construites dans les années 50-60, les gens qui ont lancé ce programme de construction n'ont à aucun moment vu venir le décrochage. Au contraire, l'église paraissait plutôt en forme dans les années 50, au début des années 60. D'ailleurs, le climat qui prévaut à l'entrée au concile, en 62, il y a un optimisme. Un optimisme pas simplement sur les destinées du monde, un optimisme sur les destinées de l'Église dans le monde. Et de fait, il ne faut pas écrire l'histoire à l'envers. C'est ça ce que je veux dire. C'est que quand vous reprenez cette documentation à l'endroit, ce qui est effarant, c'est que personne ne voit venir la rupture. Personne ne la voit venir, pas même Boulard. Boulard, il n'y a qu'une chose qui l'inquiétait. Et il n'avait pas tort, parce que ça va être un des éléments de la rupture, mais pas le seul. C'était, il sentait bien que l'Église de France reposait sur la vitalité de bastions ruraux et paysans, sélectifs, parce qu'il y avait des régions rurales très peu croyantes, et que l'exode rural allait laminer ces bastions. Surtout dans l'Ouest. Il était inquiet de ça. Il disait, il y a un moment, ces campagnes vont se vider, et l'Église qui vit, j'allais dire, sur ses ressources rurales et paysannes, va avoir un problème. Ça, c'était son inquiétude. Mais il n'a pas du tout vu, par exemple, par où la rupture allait venir, par les jeunes. Pas du tout. Ça, c'est les jeunes, c'était encore considéré comme de la clientèle captive. Enfin, les jeunes, ils étaient là, la matrice les faisait venir. Bon, et c'est pourtant par eux, en partie, les jeunes et les femmes, souvent, que ça va venir. C'est-à-dire par ceux dont on n'avait pas imaginé un seul instant que l'effondrement pourrait venir. Enfin, ça rend modeste sur la capacité de projection et de prospective. C'est-à-dire qu'on est toujours surpris par les événements, par la crise. Donc, ça n'a pas été vu. Je citais tout à l'heure Gabriel Le Braz, qui était vraiment un très grand esprit, le fondateur de la sociologie du catholicisme en France. Gabriel Le Braz, je fais souvent lire à mes étudiants un texte de lui de 1963. Lui aussi, il est mort dans les années 70, donc il a eu le temps de voir venir la crise. Et dans un texte de 1963, il réfléchit sur l'état de la déchristianisation de la société française. Et le texte s'appelle « Déchristianisation, mot fallacieux ». Déchristianisation, mot fallacieux. 1963, on est à 2 ans chaud de la rupture. Et le plus grand spécialiste de la sociologie du catholicisme français dit « Non, mais c'est vrai, on était très inquiets il y a une vingtaine d'années, à l'époque de la publication de la France pays de mission en 1943. Mais maintenant qu'on a compté, le fait est qu'il en reste beaucoup, qu'en plus ils sont meilleurs que les générations antérieures, plus convaincus, plus modernes, plus en phase avec le monde extérieur. Bref, en réalité, dormez bien, bonnes gens, c'est plus un problème d'allocation des ressources que de stock global des ressources. » Extraordinaire, rétrospectivement, de voir le niveau d'illusion, mais d'illusion partagée, déjà partagée par tout le monde, par ceux qui ne savaient pas, par ceux qui savaient, sur le destin de ce catholicisme français. Alors, la rupture s'est produite, elle s'est produite à mon avis dans la seconde moitié des années 60, alors moi je l'ai analysé au départ en reprenant la démarche du chanoine Boulard, puisque donc le chanoine Boulard, je le rappelle, qui avait piloté ces grandes enquêtes pendant une vingtaine d'années, qui connaissait très bien la situation générale et les situations locales, parce qu'il avait des correspondants dans tous les diocèses. Il y avait l'Église de France avait un clergé tellement pléthorique qu'elle avait de quoi faire des sociologues, des philosophes, dans tous les compartiments de la science, il y avait des clercs. Il est à l'origine de toute une école de sociologues catholiques, souvent des clercs, qui connaissaient très bien la situation. Et à partir de la seconde moitié des années 60, ça lui remonte un peu de partout. On lui dit en gros la chose suivante. Au fond, quand il a tiré les conclusions de 20 ans de comptabilité, Boulard avait dit ceci, écoutez, certes, il y a une pente déclive de longue durée. Il y a un truc, il y a des facteurs qui poussent dans la pente depuis fort longtemps. Et c'est un peu déprimant parce que, en dépit de tous les efforts apostoliques qu'on a consentis depuis le 19e siècle, on n'arrive pas à bloquer cette pente. C'est une pente légèrement déclive de longue durée. Elle est un peu déprimante parce qu'on n'arrive pas à la verser, mais elle est assez rassurante parce qu'en fait, elle constitue une force d'inertie qui nous garantit qu'on ne va pas voir se produire demain ou après-demain une rupture très spectaculaire. Autrement dit, l'analyse sociologique consiste à surestimer l'importance des facteurs de longue durée au détriment de l'événement. Il peut toujours se produire un événement. Bon. Donc Boulard disait, écoutez, voilà, il n'y a pas lieu de s'alarmer excessivement, ça baisse depuis longtemps, mais ça baisse modérément, légèrement, et si c'est déprimant à certains égards, c'est rassurant à d'autres, parce qu'on ne risque pas de voir le système s'effondrer à court terme. Et au moment où il dit ça, ça s'effondre. Et du coup, ça lui remonte progressivement. Il dit, mais monsieur le chanoine, vous nous avez expliqué qu'il ne se passait jamais rien dans cette histoire, mais il se passe quelque chose. Ça s'effondre. Bon. Et là, avec beaucoup de courage, ce vieux chanoine Boulard reprend le collier pour essayer de penser la mutation en temps réel, de penser ce qui se passe. Mais à ce moment-là, il n'a plus d'audience. C'est terminé. Et donc, il fait ça modestement, discrètement, et il va faire ça avec des historiens universitaires qui vont récupérer l'ensemble de sa documentation. C'est eux qui vont publier l'ensemble de cette documentation pour une large part. Notamment des gens comme Gérard Solvy, Marie Hilaire, qui sont morts l'un et l'autre il y a quelques années, qui sont de grands historiens du catholicisme. C'est vraiment eux qui vont récupérer le produit de ce gigantesque effort scientifique d'après-guerre pour essayer de l'historiciser, de le remettre un peu dans la série. Et en gros, ce qu'il voit, Boulard, en temps réel, à partir de la seconde moitié des années 60, c'est qu'il vient de se produire une rupture. Voilà, il vient de se produire une rupture. Très importante, très spectaculaire. De l'ordre, là où on peut la mesurer et la quantifier, de l'ordre de 15-20% des effectifs qui disparaissent en 2 ans. C'est très brutal. Là, il se passe quelque chose. Il se passe manifestement quelque chose. Donc, il valide cette impression de ses contemporains après l'avoir regardé de près. Rupture vient de se produire, inattendue et brutale. Avec tout le problème, ça je vais vous passer les détails, moi je me suis longtemps dit quand même, une entreprise qui perd 30% de sa clientèle en 2 ans, d'abord ça ne peut pas lui échapper, ne serait-ce que pour des raisons financières, et l'Église a aussi les finances, donc, ça aurait dû susciter plus de réactions. Tout le problème de savoir pourquoi, à la fois on l'a vu sans trop le voir, sans trop vouloir le voir, bon, il y a diverses raisons qui rendaient un peu difficile l'appréhension en temps réel de cette rupture. Je pense qu'une des grandes raisons, elle est démographique, c'est qu'il faut bien penser qu'on était à l'époque du baby-boom. Le baby-boom en France, c'est en gros, il y avait 600 000 naissances par an en 1939, en 1947, il y en avait 850 000. Le baby-boom, c'est plus de 250 000 bébés tous les ans. Ces enfants, ils vont remplir les écoles, les catéchismes des années 50. Il y a les gosses partout. Bon. Et ce sont les jeunes des années 60. Et je vous ai dit, la rupture a été surtout, c'est son deuxième constat, une rupture des jeunes. Or, les jeunes, comme ils sont en effectif absolu, plus de 150 000 à chaque promotion, même s'ils pratiquent à moins 30% pour chacune d'entre elles, à l'œil nu, en visuel de nef pour le curé, qui fait de la sociologie au noir, et surtout qu'on vient de leur tourner, la réforme liturgique vient de leur tourner, donc désormais, il a la nef dans l'axe, en visuel de nef, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que le surcroît des effectifs, passage de 600 000 à 850 000 personnes par génération, à noyer visuellement le décrochage des proportions accrochées par le rite dans la génération. Autrement dit, c'était difficile à voir en temps réel. C'était difficile à voir. C'était visible pour le sociologue qui fait ses stats et qui garde en tête la population de référence, mais pour ce que nous faisons tous de la sociologie au noir, c'était très difficile à voir. Bref, il y a d'autres raisons, mais cette rupture, elle est très brutale. Elle concerne surtout les jeunes. On le voit, par exemple, dans le diocèse de Poitiers, on a des enquêtes qui permettent de... Dans le diocèse de Poitiers, on a l'assistance dominicale par âge, ce qui est rare. Et on a 2 enquêtes, avant et après, qui permettent de voir la proportion des jeunes dans les assistances dominicales. Et on voit précisément, je vous ai dit, les assistances dominicales des années 50, c'est une pyramide. eh bien, on voit dans le diocèse de Poitiers se mettre en place, à ce moment-là, l'inversion de pyramide. C'est-à-dire moins de jeunes, moins d'enfants que de jeunes, moins de jeunes que d'adultes. Le contraire du système antérieur. Voilà. Qui, en 50 ans, 60 ans, va produire des effets révolutionnaires sur les assistances médicales. On voit le système se mettre en place en direct, entre 65 et 70. Voilà, en direct. Donc, ça, c'est les constats du chanoine Boulard, mais constat discret, rester un peu dormant dans les cartons, mais pas inaccessible pour autant. Alors, et du coup, évidemment, la question qui se pose, c'est dans un système où il n'est pas censé se produire des événements, là, un événement vient de se produire, comment l'expliquer? C'est ça la question. Alors là, vous imaginez, ça a été d'ailleurs une partie ce qui a fait le succès relatif de ce bouquin, c'est-à-dire que l'ensemble, la nébuleuse tradie ou intégriste, potentiellement se jette sur le bouquin en disant bah, attendez, ça fait 160 ans qu'on vous dit que le Concile Vatican II, c'était pas une bonne idée. Ça correspond chronologiquement au moment où tout s'effondre. Autrement dit, vous validez gentiment sur la base d'une documentation d'église. Accumulé par le chanoine en chef, le sociologue en chef de l'épiscopat, ce que nous vous racontons depuis si longtemps. Ça, il ne faut pas se leurrer. Bien sûr, ça a fait une partie de l'écho du... Ce n'est pas du tout ma thèse. Mais il faut reconnaître... Vous voyez, quand on discute avec quelqu'un, il faut commencer par lui montrer par où il a raison avant de lui montrer où il a tort. Allez. Ce qu'on fait rarement, c'est dans Pascal, ça, c'est dans les pensées de Pascal. Il discute avec quelqu'un, quand on ne sait pas dire oui, mais tu as raison, là. Ça, c'est vrai, ça. C'est vrai. Maintenant... on reprend le problème. Donc, oui, ils ont raison, en ce sens qu'il s'est bien passé quelque chose au milieu des années 60 qui a provoqué un effondrement brutal, inattendu. En un sens, ils ont en partie raison dans la description des événements. Et il faut le dire, voilà, il faut le dire. Moi, je ne suis pas un combattant, je suis catholique, mais je suis d'aucun parti. Et ma génération, je suis né en 73, j'arrive après la bataille, dans les décombres, Et je suis très conscient des marges de manœuvre très limitées des acteurs, de la difficulté à voir en temps réel ce qui se passe, des capacités d'agir sûr. Donc ce n'est pas faire le procès d'une génération ou d'un milieu. C'est décrire aussi techniquement que possible une situation. Il y a un premier problème qui est celui de la description. On peut toujours discuter du diagnostic, de la validité, parce que, je répète, il y a aussi une diversité très grande de situations régionales, de situations locales, donc la description est en soi problématique. Et puis ensuite, le deuxième problème encore plus problématique, c'est les causes, de savoir d'où ça vient. Alors, je vous la fais courte parce que le temps qui me reste est court. Et combien de temps il me reste d'ailleurs ?
Vous êtes à une heure.
Ah oui, je suis quand même à une heure. Bon. En gros, d'un mot, moi j'ai tendance à penser qu'il faut un événement pour produire une rupture de cet ordre-là dans un système qui connaît peu de ruptures. Bon. Cet événement, on a envie de penser, compte tenu de la chronologie, que c'est le Concile Vatican II. Ceci près que dans le cas français, mai 68 étant arrivé dans la foulée, c'est difficile de dissocier les deux événements qui forment en quelque sorte une espèce de ticket. Qui forme une espèce d'événement en double, d'événement biface, à ceci près quand même que là encore, quand on écrit l'histoire à l'endroit, on a souvent l'impression que la crise a été antérieure dans l'Église par rapport à la société. Et l'Église des années 65, 66, 67, elle est déjà dans la crise. Elle est déjà dans la crise. Alors que 68 n'a pas commencé. Les catholiques ne sont pas des retardataires en termes de modernisation dans cette période-là. Ils ont un coup d'avance. Ils ont un coup d'avance. Et ils vivent avant les autres la crise générale. À mon avis, ils la vivent. On dit souvent, il y a un texte, il disait ça d'ailleurs, un texte qui est resté un petit peu emblématique de cette crise catholique, qui est un texte très court, qui a été écrit un peu à la va-vite pour combler un trou dans un journal, ça arrive souvent, et qui est un texte qui est resté du jésuite François Roustan. Alors, François Roustan, c'était un grand jésuite de l'époque, un ami de Michel de Certeau, autre très grand esprit, qui avait dirigé une revue de spiritualité jésuite appelée Christus. Et François Roustan, qui s'intéressait beaucoup à la psychanalyse lacanienne, François Roustan, il faut faire une thèse dessus, parce qu'il a un parcours extraordinaire, jésuite, passé à la psychanalyse lacanienne, sorti de la psychanalyse lacanienne pour passer à l'hypnose. C'est vraiment trois stades. Donc, c'est des individus qui traversent la période, qui sont des vraies plaques sensibles, qui sont pour les historiens des individus en or. Alors, Roustan, très grand esprit, en 66, publie dans la revue Christus un texte qui va faire scandale, qui va lui valoir d'être écarté de la direction de Christus, qui s'appelle Le Troisième Homme. Troisième Homme, retrouvez ce texte, il a été republié ces dernières années avec des commentaires d'historiens, Le Troisième Homme de François Roustan. C'est un texte extraordinaire, ça fait 10 pages. Et Roustan dit, vous savez, oui, depuis le Concile, on s'affronte dans l'Église, on s'affrontait déjà avant, entre progressistes et conservateurs, ceux qui trouvent qu'on n'a pas été assez loin, qu'on aurait dû aller plus loin, ceux qui trouvent que ce n'était pas une bonne idée de moderniser. Mais au fond, les uns et les autres sont à côté de la plaque. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'est en train de monter un troisième homme, différent du conservateur et du progressiste, et ce troisième homme est en fait en train de s'apercevoir qu'il n'est plus concerné de l'intérieur par le catholicisme. C'est un texte vertigineux. C'est un texte absolument... et qui a eu un écho retentissant. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que... on peut en faire des analyses différentes du texte de Roustan, mais le texte de Roustan, il date de 1966. C'est en 1966 que Roustan dit ça. C'est pas en 68 ou en 70. Autrement dit, on était déjà dans ce processus de crise. Ma thèse a été de dire que ce n'est pas le concile qui provoque la crise, au sens où elle n'aurait pas eu lieu sans lui, puisqu'elle a eu lieu dans l'Angleterre anglicane au même moment, sans concile. Donc ce n'est pas le concile qui provoque la crise. Les causes fondamentales de la crise sont socioculturelles, à bien des égards. Mais, une fois qu'on a dit ça, toujours le dialogue avec les traditionnalistes, leur montrer par où ils ont raison avant de leur montrer par où ils voient court. Là où ils ont raison, c'est qu'à mon avis, le Concile a déclenché la crise chez nous. C'est lui qui l'a déclenché. Involontairement, bien sûr. Et c'est un tropisme français, à bien des égards, qui renvoie aux modalités françaises de conception du Concile et de réception du Concile. Mais il la déclenche, et j'insiste là-dessus, c'est une distinction que font les économistes souvent quand ils analysent une crise entre les causes d'une crise et son déclencheur. Le déclencheur, c'est ce qui fixe la date. En partie les modalités, mais j'irai un peu plus loin. C'est pas simplement le déclencheur se contente pas de fixer la date et en partie les modalités, il donne une intensité particulière à la crise. Et qu'est-ce qui a potentiellement, évidemment, la question de bien, alors quoi dans le concile, qu'est-ce qui a pu déclencher cette rupture? Alors évidemment, on a tous en tête cette affaire de crise liturgique, de réforme liturgique, qui est un peu une obsession de clair. L'immense majorité des Français ont trouvé que le passage français, c'était plus simple, plus moderne. On appréciait globalement la réforme liturgique, même si on pourrait aussi produire une analyse en disant quand on voit ce qu'était l'importance centrale des sacralités à l'ancienne de la messe traditionnelle. Le même Roustan dont je vous parlais en 1966, il a une petite phrase qu'il lâche comme ça en passant, moi qui m'a toujours laissé songeur, évoquant les puissantes sacralités de la messe traditionnelle, comme disent les traditionnalistes, de la messe à l'ancienne, il dit « Elle enveloppait le tout dans l'incompréhensible. » Elle enveloppait le tout dans l'incompréhensible. Et c'est une phrase très profonde, ça. C'est très profond. C'est-à-dire que ça absorbe les contradictions, les angles, ça lisse les angles. Il y a une charge mystique au cœur du dispositif, une sorte de test de la foi majeure qui est d'arriver à croire que sous les deux espèces, un dieu s'est fait homme. Là, il y a un test fondamental dans la conception sacrificielle à l'ancienne de la messe. Et le jour où vous changez ça, vous prenez un risque. Vous prenez un risque psychologique et anthropologique très important. Et à mon avis, si on patauge encore dans cette crise, c'est que Là, il y avait de l'axial, il y avait des choses très importantes dans cette affaire, peut-être plus qu'on ne l'a pensé. Mais ce sur quoi j'ai insisté dans mon livre, c'était sur autre chose, précisément sur le fait que pour le grand nombre, à mon avis, ce n'était pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que j'ai appelé la sortie de la culture de la pratique obligatoire sous peine de péché mortel. Dans le catholicisme traditionnel, la pratique était obligatoire, en conscience, pour toutes sortes de raisons. Elle était donnée comme telle, avec beaucoup d'insistance. Et cette norme était intériorisée, au moins par les 25% d'adultes qui allaient à la messe tous les dimanches. Et de passer à une autre conception de la pratique, de vous dire, écoutez, le problème, bon Dieu, ne se soucie pas de savoir si vous êtes là tous les dimanches, à la limite, soyez là une fois de temps en temps, mais il vous évaluera plus sur la vie, la qualité de vie évangélique, toutes choses de sorte qui paraissent assez évidentes, qui nous paraissent assez évidentes, mais qui étaient une vraie nouveauté dans le discours catholique des années 60. Et ça, à mon avis, c'est un événement sismique dans un système serré par cette culture depuis fort longtemps. Surtout pour les jeunes, surtout pour les enfants. C'est-à-dire, au fond, vous rendez la pratique optionnelle. Vous rendez la pratique optionnelle et vous desserrez tout le système. Et ça permet de comprendre aussi pourquoi, en le desserrant, d'ailleurs pour de bonnes raisons, à bien des égards, parce que le système a un côté formel, formaliste, qui pouvait paraître effectivement souvent peu évangélique. C'est-à-dire que vous pouvez, en fait, vous desserrer le système en ayant l'impression, à certains égards à juste titre, de vivre un progrès spirituel. C'est-à-dire que c'est en progressant spirituellement que vous desserrez un système formaliste, mais à moyen terme, vous le fragilisez sociologiquement. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est tout le paradoxe, les ironies de l'histoire et les paradoxes de la vie de l'Église. C'est que les bonnes opérations théologiques sont parfois des mauvaises opérations sociologiques. Et inversement. C'est comme ça, c'est triste à penser, mais c'est comme ça. On aimerait bien que tout aille ensemble, vous voyez, que la sophistication doctrinale, l'esprit critique aillent de pair avec l'intensité de la foi. Non, souvent, ça ne marche pas comme ça. C'est l'inverse. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc là, à mon avis, ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'était d'aller chercher un déclencheur qui ait pu échapper aux observateurs de la crise. Parce que comme clercs, d'une certaine façon, ou comme intellectuels, ils étaient obsédés par des débats internes, la réforme liturgique, le texte du Concile sur la liberté religieuse, qui ont donné lieu à des débats, des fleuves entiers de débats, mais dont le catholique ordinaire se moquait éperdument. L'affaire du texte sur la liberté religieuse, on pourra en reparler. J'ai aussi écrit des choses là-dessus. Vous savez, la liberté religieuse, elle existe en France, hein, depuis pratiquement la Révolution française. Donc, que l'Église catholique arrive à se mettre d'accord dans sa doctrine avec la liberté de conscience telle que la comprennent les modernes, à la limite, c'est son problème, ça ne change rien dans la vie réelle des catholiques français. Bon, ça aurait pu changer quelque chose dans la vie des catholiques polonais, oui, à l'époque du communisme, mais pour les Français, ça ne changeait rien. Donc, c'est un macro-débat pour les intellectuels, les théologiens, mais ce n'est pas un événement pour les catholiques ordinaires. Donc, déclencheur. Alors, une fois qu'on a dit ça, au fond, il faut faire l'inventaire, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, à la fois de ce qui, du coup, si on admet qu'il y a eu un déclencheur, je dirais que la crise a eu cette intensité parce qu'il y a eu un phénomène de coïncidence chronologique entre deux mutations majeures, la mutation religieuse induite par le Concile et la manière dont elle a été appliquée chez nous en France, et la mutation socio-culturelle des années 60, dont on voit bien les travaux sur les Trente Glorieuses, comme on les a appelées ces dernières années, ont bien montré, au fond, ont proposé une sorte de séquençage plus fin de la période dite des Trente Glorieuses, qui aide à comprendre, à mon avis, ce qui s'est passé dans les années 60. On a tendance à dire les Trente Glorieuses, vous savez, c'est 1945, 75 ou 73, si on prend le premier choc pétrolier. La France de 1945 à 1950, elle se reconstruit. Les derniers tickets de rationnement, ils disparaissent en 49. Autrement dit, il y a d'abord une reconstruction matérielle, la vie est très dure pour beaucoup de gens, on n'est pas du tout dans une société de consommation. Les années 50 sont une phase, disons, de modernisation économique et sociale, sous la 4e République. Et ce qu'ont dit mes collègues ces dernières années, et je les crois volontiers, c'est que c'est au milieu des années 60 que cette modernisation économique et sociale, qui coïncidait aussi avec l'entrée progressive dans la société de consommation, que cette modernisation économique et sociale produit ses effets culturels, commence à faire muter culturellement les gens, pas simplement dans leur vie concrète, dans leur vie matérielle. Un événement symbolique, par exemple, c'est ce concert de la Nation, les copains à la Nation en 1963. Événement resté célèbre à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait « Salut les copains » qui passait à la radio, et les jeunes commençaient à avoir des transistors, plus la TSF qu'on écoute avec les grands-parents dans le salon, mais éventuellement le transistor qu'on peut écouter seul. Donc c'est aussi toute une culture jeune qui se met en place et qui prend son autonomie par rapport à la culture des adultes. Et le yéyé, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et les autres deviennent des idoles de la jeunesse au début des années 60. Et cette émission « Salut les copains » organise à la Nation à Paris un grand concert en 1963. Les jeunes à l'issue de ce concert, donc Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, tout le monde est là, scène d'hystérie collective, un peu comme celle que suscitaient les Beatles au même moment de l'autre côté de la Manche. Et à la fin du concert, les jeunes mettent à sac la place de la Nation. Et ça a éberlué toute la France. Ils se sont dit, mais qui sont ces petits cons? Ces gens qui avaient connu la guerre, la reconstruction, qui se sont dit, cette jeune génération, écoute une musique de fou et, hystérisé par la musique en question, met à sac la place de la nation dans la foulée. Cet événement, il est à mon avis très révélateur, il date de 63. Il est très révélateur de ce décalage culturel qui était en train de se créer entre toute une partie de la jeunesse, pas toute la jeunesse, hein, la jeunesse d'ici ou là, il faudrait nuancer, mais qui était en train de se mettre en place. Donc, mutation socioculturelle, coïncidence entre la mutation religieuse et la mutation socioculturelle qui entre en dialectique et qui rend la situation à peu près incontrôlable. Ouais. Au moins pour une dizaine d'années, à mon avis, c'est la toile de fond de la rupture. Alors, il faudrait enfin aller voir dans le détail quels sont les éléments de cette mutation sociale qui ont porté la rupture, chez nous, comme en Angleterre ou en Allemagne, au même moment. Il y en a plusieurs, je ne fais que les énoncer pour qu'on ait le temps de parler un peu. Première mutation très importante, l'exode rural. La France est restée... La France, ce paradoxe, c'est un des tout premiers pays industrialisés. On a démarré notre révolution industrielle dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, en même temps que les Anglais. Donc, un pays pilote sur le plan de l'industrialisation, mais qui a cette particularité qu'en dépit de son industrialisation qui a été progressive, elle est très longtemps restée un pays rural et paysan. C'est au recensement de 1931 seulement qu'on s'aperçoit qu'il y a plus de monde dans les villes que dans les campagnes en France, alors que cette barre des 50% de population urbaine, elle est franchie en 1890 en Allemagne, en 1850 en Grande-Bretagne. Autrement dit, nous avons cette particularité d'avoir été un pays moderne, industrialisé, mais rural et paysan. Et le catholicisme français avait des bastions ruraux. Il avait des bastions ruraux très vivants, très dynamiques, et il vivait, en quelque sorte, du surplus dégagé par les bastions qu'il déversait sur les zones critiques. Voilà. On recrutait les curés en Bretagne et on les envoyait dans le Limousin ou dans la Beauce. Donc, il y avait un jeu de vases communicants possible, un jeu d'équilibre des comptes de l'Église catholique qui optimisait cette diversité interne. Bon. Ça, c'est ce qui inquiétait Boulard. Il dit, quand on aura perdu ces bastions ruraux, on aura un problème. Ça a certainement été un élément très important de la crise. Deuxième élément important, que l'on ne pense pas souvent, la normalisation démographique des familles catholiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? La France est un pays malthusien. On est le premier pays au monde à avoir commencé à limiter nos naissances de façon systématique, dès le XVIIIe siècle dans l'aristocratie. Mais dès le XIXe siècle, c'est massif. Les Français limitent leurs naissances, en dépit d'un taux de mortalité infantile qui est très élevé. On limite nos naissances. Et du coup, la France, si vous voulez, des années 30, des années 1930, c'est une France malthusienne qui fait peu d'enfants, mais avec une distribution des familles très contrastées. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait un ventre central de familles qui faisait zéro, de couples qui faisaient zéro, un ou deux enfants. C'était le monde des classes populaires en voie d'ascension et des classes moyennes qui limitaient très fortement leur naissance. Ça, c'est le malthusianisme français. C'est eux qui ont fait le malthusianisme français. Et puis, il y avait des milieux où, au contraire, un modèle prolifique prévalait, où on avait 8, 10, 12, 15 enfants, une fécondité démographique extraordinaire. Qui faisait des enfants? Il y avait deux critères. Il y avait un critère économique. On fait des enfants quand on a suffisamment d'argent pour les faire, mettons la grande bourgeoisie du nord de la France, ou quand on n'a rien, c'est-à-dire qu'on n'a rien à perdre, au fond, à les faire. Hein. Donc, en haut et en bas de l'échelle sociale, on fait beaucoup d'enfants, au milieu, on limite. Et puis, il y avait un critère idéologique, la carte de la pratique religieuse dans la France du 19e ou du 20e siècle, c'est la carte de la vitalité démographique. Les régions catholiques font plus d'enfants que les autres. Et il y a une surreprésentation des familles prolifiques dans les milieux catholiques, ce qui joue un rôle très important dans les vocations sacerdotales et religieuses, masculines et féminines. Quand vous êtes un paysan de l'Aveyron avec 14 enfants, si vous avez 3 prêtres et 4 religieuses, ça vous arrange. Autrement dit, l'Église de France avait un socle démographique de familles prolifiques qui a permis au clergé français d'être pléthorique pendant très longtemps. D'être pléthorique. L'Église de France a eu un clergé parmi les plus nombreux. Donc, et le baby-boom, c'est quoi? Le baby-boom, c'est pas tout le monde se met à faire 8 enfants. Le baby-boom, c'est un modèle à 3. C'est-à-dire, et c'est d'ailleurs, c'est ça, la famille nombreuse, elle est à 3. C'est-à-dire que la politique de la famille nombreuse, c'est inciter les Français à faire 3 enfants. Autrement dit, le ventre central, quand faisait 0, 1 ou 2, se sont mis à en faire 3, en gros. Et c'est ça, le baby-boom. Les plus de 100 000, les plus de 150 000, ils viennent de là. Alors que les familles très nombreuses en ont fait plutôt moins. Autrement dit, le baby-boom n'est pas une bonne nouvelle pour l'Église catholique. Parce qu'en fait, le baby-boom signale le début de normalisation démographique des familles catholiques, qui se mettent à faire moins d'enfants qu'elle n'en faisait jusque-là. Quand on en fait 12, même si on a deux mécréants, c'est pas très grave. Ça, vous pouvez vous offrir un taux de perte relativement important. Et d'ailleurs, c'est toute l'histoire de la laïcité française. Les laïcs français sont des sortants du catholicisme, qui ont reçu une éducation catholique et qui prennent leur distance avec l'éducation catholique de leur enfance. La laïcité française a vécu de ça pendant très longtemps. La laïcité française a vécu sous perfusion catholique sur deux siècles. On lui... Et ça rajeunissait son combat, à chaque fois, périodiquement, parce que c'était des petits gars issus de familles laïques qui venaient de découvrir les bienfaits de la laïcité et qui rajeunissaient un combat vieillissant par ailleurs. Donc ça, c'est je dirais, c'est l'histoire démographique de la laïcité française, qui est à mon avis très importante et qui n'a pas toujours été écrite. Donc normalisation démographique des familles, transformation de la condition féminine, très important. Vous savez, il existait, les sociologues disaient, il existait le dimorphisme sexuel de la pratique religieuse. C'est un peu métallique. Qu'est-ce que ça veut dire, le dimorphisme sexuel de la pratique religieuse? C'est-à-dire que dans les assistances dominicales, il y a toujours plus de femmes que d'hommes, et que plus la région est déchristianisée, plus la proportion des femmes est importante. Voilà. Ça, c'est le dimorphisme sexuel de la pratique religieuse. Il est certain que le travail des femmes, le passage au salariat, l'émancipation féminine, la contraception, les bouleversements de la condition féminine ont eu un impact direct sur le catholicisme français. Hein, le rapport au catholicisme, c'est souvent un rapport à la mère. Il vous est souvent venu par votre mère, pas toujours, mais souvent il vous est venu par votre mère. Là, il y a une évolution, à mon avis, décisive. Et puis, dernière fois, je termine, parce que je sens qu'il faut que je termine. Dernière chose capitale, sur laquelle insistait beaucoup Mgr Simon, ancien évêque de Clermont-Ferrand, sociologue de formation, à juste titre, à mon avis, c'était la hausse du niveau scolaire. C'est en 1959, l'obligation scolaire est passée à 16 ans. Elle était à 14, depuis 36, depuis le Front Populaire. 13 ans depuis Jules Ferry. L'obligation scolaire, c'est 13 ans Jules Ferry, 14 ans le Front Populaire, 16 ans la loi de Debré. Donc on a créé partout, dans les années 60, des CES et des CEG, des collèges, qui ont scolarisé massivement tous les petits Français. Le niveau a monté d'un coup, d'un seul, dans les familles, surtout dans les familles populaires. Et ça, en partie... casser la transmission intergénérationnelle des valeurs et des systèmes idéologiques. C'est-à-dire qu'en gros, pour la faire courte, au risque de caricaturer un peu, au fond, la religion est apparue dans beaucoup de familles, surtout populaires, comme, je dirais, un héritage du monde d'hier qui avait vocation à disparaître comme le reste. Leurs parents ne savaient pas utiliser la télévision, dont les ménages se sont équipés massivement dans les années 60. Eh bien, la religion, ça faisait partie du lot. C'est-à-dire que c'était l'archaïsme de leurs parents. La montée brutale du niveau à l'intérieur des familles bloque la transmission des valeurs morales, ou en tout cas crée une crise morale à l'intérieur des familles en cassant en partie les processus de transmission. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie.
Tendances actuelles du catholicisme français, regard historique. Vous venez de suivre la seconde et dernière partie de l'intervention de Guillaume Cuchet, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'histoire des religions. Intervention enregistrée le samedi 24 septembre 2022 à la maison diocésaine de Bayonne lors de la journée de rentrée de l'antenne de théologie des Pays de l'Adour, la TPA.